comptait le petit peuple, un flot de gens endimanchés se ruant là ainsi qu'à une fête. Et, au milieu de ce triomphe suprême, elle était peut-être plus orgueilleuse encore, elle, une des reines du Second Empire, la veuve qui portait si dignement le deuil du régime déchu, d'avoir vaincu la jeune République, en l'obligeant, dans la personne du sous-préfet, à la venir saluer et remercier. Il n'avait d'abord été question que d'un discours du maire, mais il était certain, depuis la veille, que le sous-préfet lui aussi parlerait. De si loin, Clotilde ne distinguait qu'un tumulte de redingotes noires et de toilettes claires sous l'éclatant soleil. Puis, il y eut un bruit perdu de musique, la musique des amateurs de la ville, dont le vent, par instant, lui apportait les sonorités de cuivre. Elle quitta la fenêtre. Elle vint ouvrir la grande armoire de chêne pour y serrer son travail, resté sur la table. C'était dans cette armoire, si pleine autrefois des manuscrits du docteur, et vide aujourd'hui, qu'elle avait rangé la layette de l'enfant. Elle semblait sans fond, immense, béante. Et sur les planches nues et vastes, il n'y avait plus que les langes délicats, les petites brassières, les petits bonnets, les petits chaussons, les tas de couches. Toute cette lingerie fine, cette plume légère d'oiseau encore au nid, où tant d'idées avaient dormi en tas, où s'était accumulé pendant 30 années l'obstiné labeur d'un homme dans un débordement de paperasse, il ne restait que le lin d'un petit être, à peine des vêtements, les premiers linges qui le protégeaient pour une heure et dont il ne pourrait bientôt plus se servir. L'immensité de l'antique armoire en paraissait égayée et toute rafraîchie. Lorsque Clotilde eut rangé sur une planche les couches et les brassières, elle aperçut, dans une grande enveloppe, les débris des dossiers qu'elle avait remis là après les avoir sauvés du feu. Et elle se souvint d'une prière que le docteur Ramon était venu lui adresser la veille encore, celle de regarder si, parmi ces débris, il ne restait aucun fragment de quelque importance ayant un intérêt scientifique. Il était désespéré de la perte des manuscrits inestimables que lui avait légués le maître. Tout de suite après la mort, il s'était bien efforcé de rédiger l'entretien suprême qu'il avait eu. Cet ensemble de vastes théories exposées par le moribond avec une sérénité si héroïque. Mais il ne retrouvait que des résumés sommaires. Il lui aurait fallu les études complètes, les observations faites au jour le jour, les résultats acquis et les lois formulées. La perte demeurait irréparable. C'était une besogne à recommencer. Et il se lamentait de n'avoir que des indications. Il disait qu'il y aurait là pour la science un retard de 20 ans au moins, avant qu'on reprît et qu'on utilisât les idées du pionnier solitaire, dont une catastrophe sauvage et imbécile avait détruit les travaux. L'arbre généalogique, le seul document intact, était joint à l'enveloppe. Et Clotilde apporta le tout sur la table, près du berceau. Quand elle eut sorti les débris, un à un, elle constata, ce dont elle était déjà à peu près certaine, que pas une page entière de manuscrit ne restait, pas une note complète ayant un sens. Il n'existait que des fragments, des bouts de papier à demi brûlés et noircis, sans lien, sans suite. Mais pour elle, à mesure qu'elle les examinait, un intérêt se levait de ces phrases incomplètes, de ces mots à moitié mangés par le feu, où tout autre n'aurait rien compris. Elle se souvenait de la nuit d'orage. Les phrases se complétaient. Un commencement de mots évoquait les personnages, les histoires. Ce fut ainsi que le nom de Maxime tomba sous ses yeux. et elle revit l'existence de ce frère qui lui était resté étranger, dont la mort, 2 mois plus tôt, l'avait laissée presque indifférente. Ensuite, une ligne tronquée contenant le nom de son père lui causa un malaise, car elle croyait savoir que celui-ci avait mis dans sa poche la fortune et l'hôtel de son fils, grâce à la nièce de son coiffeur, cette rose si candide, payée d'un tant pour cent généreux. Puis, elle rencontra encore d'autres noms. Celui de son oncle Eugène, l'ancien vice-empereur, ensommeillé à 7 heures. Celui de son cousin Serge, le curé de Sainte-Trope, qu'on lui avait dit phtisique et mourant la veille. Et chaque débris s'animait. La famille exécrable et fraternelle renaissait de ses miettes, de ses cendres noires où ne couraient plus que des syllabes incohérentes. Alors, Clotilde eut la curiosité de déplier et d'étaler sur la table l'arbre généalogique. Une émotion l'avait gagnée. Elle était tout attendrie par ses reliques. Et lorsqu'elle relut les notes ajoutées au crayon par Pascal, quelques minutes avant d'expirer, des larmes lui vinrent aux yeux. Avec quelle bravoure il avait inscrit la date de sa mort. Et comme on sentait son regret désespéré de la vie, dans les mots tremblés annonçant la naissance de l'enfant. L'arbre montait, ramifiait ses branches, épanouissait ses feuilles, et elle s'oubliait longuement à le contempler, à se dire que toute l'œuvre du maître était là, toute cette végétation classée et documentée de leur famille. Elle entendait les paroles dont il commentait chaque cas héréditaire. Elle se rappelait ses leçons. Mais les enfants surtout l'intéressaient. Le confrère auquel le docteur avait écrit à Nouméa pour obtenir des renseignements sur l'enfant né d'un mariage d'Étienne au bagne s'était décidé à répondre. Seulement, il ne disait que le sexe, une fille, et qui paraissait bien portante. Octave Mouret avait failli perdre la sienne, très frêle, tandis que son petit garçon continuait à être superbe. D'ailleurs, le coin de belle santé vigoureuse, de fécondité extraordinaire, était toujours à Valqueyras, dans la maison de Jean, dont la femme, en 3 années, avait eu 2 enfants et était grosse d'un 3e. La nichée poussait gaillardement au grand soleil, en pleine terre grasse, pendant que le père labourait et que la mère, au logis,